Nous commençons, si vous voulez bien. Et c'est la première séance donc du séminaire qui suit le cours et qui porte sur le même sujet. J'ai donc invité cette année des personnes assez différentes, hein, certains acteurs, témoins de 1966, certains historiens de différents aspects qui sont un peu hors de mes compétences, hein, tels qu'Éric de Chassé, Ludovic Tournès, Antoine de Bec, et j'ai invité un certain nombre d'historiens, j'ai dit Antoine Prost, spécialiste de l'éducation, très éminent, ou François Dos, qui a publié de nombreux ouvrages sur cette période. C'est pour ça que je pensais que c'était bien de commencer par lui. Il est notamment l'auteur d'une grosse histoire du structuralisme en deux volumes, qui est un livre de référence publié il y a déjà près d'une vingtaine d'années, donc considérant qu'on en était sorti de ce structuralisme. Depuis, il est l'auteur d'ouvrages importants sur un certain nombre de protagonistes de cette aventure, tels que Paul Ricoeur, Michel de Certeau. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage sur les historiens des annales. Et plus récemment, il est l'auteur d'un livre sur Gilles Deleuze et biographie croisée de Gilles Deleuze et de Félix Guattari. Guattari que je citais tout à l'heure comme l'un des premiers témoins de ce malaise étudiant des années 60. Ces malades de l'université. Tout récemment, François Dos a publié un ouvrage sur le... Il n'est pas dans la biographie que j'ai là. Vous venez de publier un livre en deux volumes, là, en folio, j'ai vu.
Oui, historiographie.
Historiographie. Pas tout seul, enfin,
non,
avec d'autres.
Non, non. Mais 80 historiens.
J'ai ici une biographie qui n'est pas assez récente. Donc, c'est sorti cet automne. Hein.
Tout à fait.
Ça s'appelle comment ?
Historiographie, concepts et débats, ainsi qu'un livre cet automne sur l'événement qui s'appelle,
oui,
Renaissance.
Oui, ça j'ai vu, Renaissance de l'événement. Et puis, j'ajouterai, je crois que je peux l'ajouter, que vous préparez, oui, un ouvrage sur Pierre Nora.
Il est fini, il est terminé, il sort le 24 février.
Ah, il sort le 24 février. Bon, ben on l'aura avant la fin de notre cours. Donc, ça sera un ouvrage dans la série de ces monographies sur un certain nombre d'acteurs de cette période, donc sur l'historien Pierre Nora, que nous recevrons, lui, la semaine prochaine, pour nous parler de son expérience de 1966. Alors, votre titre est « L'année lumière du structuralisme », qui est, je crois, le titre du chapitre que vous avez consacré à ce moment, 1966, dans votre histoire du structuralisme, il y a quelque temps. Je rappelle que cette histoire du structuralisme est disponible, je pense, toujours dans une collection de poches. Je ne sais plus laquelle, mais...
Le livre de poche.
Le livre de poche, tout simplement dans le livre
Biblio-essai.
De poche. Voilà. Et c'est une lecture qui peut être tout à fait utile pour suivre ce cours. Je vous donne la parole et puis vous parlez un certain temps et puis ensuite on aura un dialogue si vous voulez bien.
Bien, je remercie Antoine Compagnon pour cette invitation dans ce haut lieu du Collège de France. Effectivement, d'avoir consacré l'année à l'année 66, l'année 2011, est quelque peu judicieux de sa part parce qu'effectivement, j'avais appelé donc il y a 20 ans dans mon histoire du structuralisme, l'année 66 comme l'année lumière du structuralisme. Mais en effet, c'est une année charnière, c'est une année tournant où l'effervescence structuraliste, qui ne se limite évidemment pas à une année civile, a été particulièrement intense au cours de l'année 66. Je commencerai par une note humoristique que je tire de Gilles Lapouge, Dans la quinzaine littéraire, il écrit cela 20 ans après, en 86, et dans un texte qui s'appelle « Encore un effort et j'aurais épousé mon temps ». Il écrit « Tout s'est déglingué à partir de 1966 ». Un ami m'avait prêté les mots et les choses que j'ai eu l'étourderie d'ouvrir. J'ai abandonné d'un seul coup Stendhal, Mandelstam et Rimbaud, comme on cesse un beau jour de fumer des gitanes, pour consommer les gens dont Foucault nous entretenait, Freud, Saussure et Ricardo. J'avais la peste. La fièvre ne me lâchait pas et j'aimais cette peste. Je me gardais de me soigner, de ma science j'étais fier comme un pou sur la tête du pape. Je discutais philosophie, je me nommais structuraliste, mais je ne le criais pas trop sur les toits, car mon savoir était tendre encore, friable, un doigt devant l'eût dispersé. J'usais mes nuits à apprendre tout seul en tapinois les principes de la linguistique, et j'étais bien content. Je me bourrais de syntagmes et de morphèmes. Si je débattais avec un humaniste, je l'écrabouillais d'un coup d'épistémé. Je prononce d'une voix émue, presque tremblante, et de préférence dans les soirs d'automne, les noms de Derrida ou de Propre. Comme un ancien poilu caresse les drapeaux pris à l'ennemi. Jacobson est mon tropique ou mon équateur. Benveniste, ma Guadeloupe. Et le code pro-aérétique, mon club méditerranéen. Je vois Yemslev comme une steppe. Il me semble que je ne sois pas le seul à m'être égaré dans ces écarts. Voilà ce que, 20 ans après, écrit plaisamment Gilles Lapouge, et effectivement, pour réaliser cette histoire du structuralisme, j'ai réalisé toute une enquête auprès des acteurs de cette période, et parmi ces acteurs sémiologues figure Philippe Hamon parmi d'autres, et Philippe Hamon m'a dit « Je suis un enfant de 1966 », comme il y a eu des enfants de 1789, de 1830, de 1848 ou plus tard de 68. Et Philippe Hamon continue « Je finissais mes études à la Sorbonne, je suis donc représentatif d'une génération très insatisfaite par ses professeurs à la Sorbonne dans les études littéraires. Cet enseignement était purement historique, purement philologique, l'étude des sources, des influences, mais ne regardait jamais les textes eux-mêmes. Le choc a été pour lui la découverte de la linguistique, des formalistes russes, de Tsvetan Todorov et de Claude Lévi-Strauss. » En effet, le structuralisme, on pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est ? Tel n'est pas ici véritablement mon propos, mais la manière dont j'en parlerai est de l'ordre d'une définition très large. Je prendrai quelque chose qui habille large, qui habille l'époque, qui habille le moment des années, fin des années 60 ou milieu des années 60. Et là-dessus, je pense que la phrase que j'ai prise en exergue et tirée des mots et les choses de mon histoire du structuralisme correspond assez bien. Ce que dit Michel Foucault de ce moment correspond assez bien à cette définition large. Foucault dit en effet « Le structuralisme n'est pas une méthode nouvelle, il est la conscience éveillée et inquiète du savoir moderne. » C'est une définition qui va évidemment habiller très large sur le plan aussi bien disciplinaire que du public, du lectorat. Et habiller tellement large que Roland Barthes aussi verra dans 66 un moment tout à fait fondamental. Roland Barthes dit en effet que 66 est le repère central. On peut dire, dit Barthes, que tout au moins au niveau parisien, il y eut cette année-là un grand brassage et probablement décisif des thèmes les plus aigus de la recherche. Eh bien, et c'est à ce moment-là qu'il va en effet définir l'activité structuraliste. Cette activité structuraliste va se donner comme le sésame qui règle tous les problèmes. Pour vous dire à quel point le structuralisme a été la bannière, l'étendard de toute une génération, de la jeune génération, mais pas seulement jeune, mais massivement de la jeune génération de ces années, je vous révélerai l'anecdote tout à fait significative que m'a donnée Jean Pouillon qui a été le bras droit de Sartre avant d'être le bras droit de Claude Lévi-Strauss. Et Jean Pouillon me racontait qu'en 1966, l'équipe de France de football, qui n'avait pas à l'époque Platini, multipliait les échecs sur tous les terrains des rencontres internationales. Et l'entraîneur de l'équipe de France de football, interrogé à la télévision pour savoir ce qu'il allait faire pour améliorer ses résultats, a dit à la presse, ne vous inquiétez pas, je vais faire une réforme structuraliste de mon équipe. Ça n'a pas donné des résultats particulièrement évidents dans l'immédiat, il faut le dire. Alors, donc le structuralisme était donné comme la clé des songes. Et dans la seule année 66, paraissent, comme je dis, années-lumière du structuralisme, paraissent en effet des œuvres qui sont des icônes de ce moment structuraliste. C'est bien sûr, et je n'en parlerai pas trop parce que Pierre Nora vous en parlera la semaine prochaine, puisqu'il en est l'éditeur chez Gallimard, Les mots et les choses, qui vont se vendre comme des petits pains. Quand on connaît la difficulté des mots et les choses, il y a là déjà un phénomène. Premier tirage n'était que de 3500 exemplaires. L'éditeur lui-même vous le dira, il en était le premier étonné. C'est l'année de la publication de Critique et vérité de Roland Barthes. C'est l'année de la publication des écrits de Lacan. C'est l'année de la publication de Théorie de la littérature de Todorov. C'est l'année de publication de Figures de Genette. C'est l'année de publication des problèmes de linguistique générale de Benveniste. C'est l'année de la publication de La religion romaine archaïque de Dumézil. C'est l'année de la publication de L'amour de l'art de Bourdieu. C'est une réédition aussi en 1966 de la fameuse thèse de Canguilhem, Le normal et le pathologique, qui date de 1943. C'est l'année de la réédition de la fameuse thèse parue en 1949 de celui qui va être présenté comme le pape de l'école historique française, qui est Fernand Braudel, et sa thèse « La Méditerranée et le monde méditerranéen » est republiée en 1966 avec une nouvelle conclusion où Braudel se livre à cette, finalement, confidence en disant à ses lecteurs « Je suis structuraliste de tempérament ». Il reste historien. Les historiens ne sont pas vraiment invités au banquet structuraliste, mais il l'est quand même de tempérament. Un engouement extraordinaire qui, comme vous le voyez, embrasse tout le champ éditorial, avec deux maisons en pointe, deux maisons phares, que sont Le Seuil et Gallimard, et avec deux personnalités qui vont orchestrer cet âge d'or des sciences sociales et du structuralisme, Pierre Nora d'un côté, qui est rentré chez Gallimard en 1965, et François Val, qui dirige les sciences humaines et au Seuil. Eh bien, cet engouement n'est pas que parisien, car il va traverser très vite l'Atlantique, et nous sommes encore en 1966, lorsque, à l'automne 1966, en octobre 1966, se tient un colloque tout à fait important pour les Américains, John Hopkins, ce campus réputé de Baltimore, où se retrouvent Lucien Goldman, Roland Barthes, Tsvetan Todorov, Nicolas Ruvet, Jacques Derrida, Jean-Pierre Vernant, Jacques Lacan, Georges Poulet. Eh bien, voilà vraiment une année phare du structuralisme, une année faste du structuralisme. Alors, qu'est-ce qu'il se joue dans cette explosion ? Je ne nie pas du tout, et on en rediscutera peut-être avec Antoine Compagnon, mais la dimension démographique, universitaire, qu'il a effectivement bien souligné. Il vient de bien faire ce voyage à l'intérieur d'une université en pleine transformation, en pleine massification. C'est une composante, mais il en est d'autres. Il en est d'autres. Alors, il en est d'une première où ce qui se joue, et qui se joue très connecté avec ce qu'Antoine Compagnon vient de dire, c'est la crise de croissance, on pourrait presque dire la crise infantile de croissance, des sciences humaines, des sciences sociales, qui effectivement butent sur l'organisation très jacobine, très centraliste de l'organisation universitaire française et sur la tradition, qui est la vieille Sorbonne. En effet, vous avez là un développement spectaculaire des sciences humaines qui se déroule depuis un moment, dans les années 50 et 60, mais qui ne trouve pas de répondant sur le plan, qui ne trouve pas à s'institutionnaliser, qui ne trouve pas de légitimité scientifique ou de légitimation institutionnelle, et qui sont à la recherche d'assises institutionnelles, et qui vont mener, ces sciences sociales, une véritable stratégie de rupture. C'est le grand mot d'époque. D'ailleurs, la fameuse rupture bachelardienne, la coupure épistémologique, la coupure fait plus mal que la rupture, vous en conviendrez, et on cherche à couper. On cherche à couper le cordon ombilical qui rattachait effectivement un certain nombre de disciplines, un certain nombre de recherches avec les humanités classiques, avec le Lagarde et Michard, avec la vieuvre, comme l'a appelé quelqu'un, à propos de cette coalescence entre la vie et l'œuvre. Eh bien, face à l'académisme de la vieille Sorbonne, vous avez effectivement une institution qui, Antoine Compagnon l'a dit tout à l'heure, les facultés sont derrière des murs. La transdisciplinarité qui sera l'étendard commun autour du structuralisme, qui sera recherché durant ce moment, n'est pas reçu lorsque chacun regarde dans l'étroite limite de sa discipline. Et en 67 encore, vous n'avez aucun cours de linguistique générale, à part Martinet, à la Sorbonne. Le structuralisme va donc se donner comme l'étendard d'un troisième discours, d'une troisième culture, d'une culture qui ne se reconnaît pas, en effet, dans les humanités classiques, mais qui ne se reconnaît pas non plus dans les sciences exactes, dans la physique, dans la mathématique, et qui va rechercher à faire valoir ce qui ne vaut pas institutionnellement, qui est justement cette culture des sciences humaines qui ne sont pas à l'intérieur de l'université et qui cherchent à y rentrer. Alors, sont-elles purement absentes de la transmission ? Non. Ces sciences humaines ont quand même quelques, mais dans les marges, parfois des marges prestigieuses, sont parfois présentes. C'est le cas ici, dans cette institution, le Collège de France. Vous avez bon nombre de représentants de ce paradigme structuraliste au Collège de France, mais qui, contrairement au public que vous êtes, ici présent, ne font pas, comme Antoine Compagnon, école. Car, effectivement, à ce moment-là, si un Émile Benveniste donnait cours au Collège de France, il était suivi par une demi-douzaine de personnes. Donc, dans la marginalité, vous aviez la sixième section de l'école pratique des hautes études, qui est aujourd'hui l'école des hautes études en sciences sociales. Et puis, vous avez, en effet, l'édition, vous avez la presse, vous avez les revues. Et c'est là que nous allons assister à, on peut dire, une socialisation intense par ce programme structuraliste de cette légitimation, de cette émancipation progressive des sciences humaines autour d'un certain nombre de grands débats, de grands combats, de grandes controverses, où les sciences sociales cherchent à couper leur cordon ombilical qui les relie non seulement à la littérature, aux lettres classiques, mais aussi à la philosophie. C'est un moment, je rappelle, où les philosophes sont donnés dans ces années 60 comme complètement dépassés. Les philosophes rasent les murs en 66. Ils ont peur des sciences sociales lorsqu'ils ne prennent pas leur programme, car ils sont les représentants, ces philosophes, d'un savoir qui est considéré comme académique et totalement dépassé par la modernité des sciences humaines. Vous voyez le contraste avec ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, je n'ai pas besoin de développer. Par contre, vous avez un certain nombre de philosophes qui vont capter, bien comprendre que le programme de rénovation vient des sciences humaines et qu'il s'agit de le prendre en compte. Et cela va donner une philosophie différente, qui est une philosophie du concept et qui thématise même la fin de la philosophie, la fin de l'homme, la fin des humanités, et qui coupe radicalement avec toute forme de philosophie du sujet. C'est le moment où l'existentialisme sartrien et sa prévalence, c'est-à-dire le cogito, la conscience, le pour-soi, est complètement évacué des recherches. C'est même le moment où la phénoménologie apparaît comme dépassée et effectivement la mort brutale, dès le début des années 60 de Merleau-Ponty, a coupé là tout un programme que va poursuivre néanmoins Paul Ricoeur avec, à partir de 59-60, ce qu'il appelle la greffe herméneutique sur le programme phénoménologique, mais de manière encore extrêmement marginale dans le paysage intellectuel français dans ces années 60, et on va voir qu'il va se faire d'ailleurs particulièrement... il va subir une controverse qui va faire mal dans sa visibilité dans le paysage intellectuel français. Ce qui domine ici, dans cette émancipation, dans ce désir de coupure, c'est ce que Marcel Gauchet a appelé, durant ces années 60, le paradigme critique. On pourrait dire même ultra-critique. Paradigme critique, et on peut dire que ce paradigme critique du structuralisme est porté par des gens qui ont fait philo et qui ont quitté le territoire de la philosophie pour entrer dans le territoire du concept. Même Foucault, qui est un philosophe, évidemment, et qui revendique, va sur d'autres terres, butine sur les terres de l'archive, de l'histoire. Il réalisera d'ailleurs un certain nombre d'ouvrages, je pense à Arlette Farge, à Michel Perrault, avec des historiennes. Et sur le plan philosophique, il présente une ligne de clivage très ferme lorsqu'il dira, par exemple, que cette ligne de clivage, c'est celle qui sépare une philosophie de l'expérience, du sens, du sujet, et une philosophie du savoir, de la rationalité et du concept. D'un côté, une filiation qui est celle de Sartre et de Merleau-Ponty, et puis une autre qui est celle de Cavaillès, Bachelard, Coiré et Canguilhem, et qui est évidemment celle dans laquelle il se reconnaît, lui, Michel Foucault, auteur de ce best-seller de 66, que sont les mots et les choses. Donc, récupération des sciences humaines, mais les sciences humaines qui dominent l'université, dans l'université, qui sont des facultés qui représentent ces sciences humaines, dont Antoine Compagnon nous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des disciplines comme la sociologie, comme la psychologie, sont particulièrement objet de contestation de la part des structuralistes. Et Lacan va rentrer en guerre contre non seulement une certaine médicalisation de la psychanalyse, mais certaines appréciations et récupérations venant de la psychologie. Althusser va se faire très polémique contre l'histoire. Foucault va critiquer toutes les méthodes de classement sociologique et tout autre des sciences humaines, quelles qu'elles soient, des sciences de la vie ou des sciences de la société. Et vous allez avoir donc petit à petit un paradigme porteur et porteur au-delà des frontières disciplinaires, transversales, qui va se doter d'un attelage qui va correspondre dans cette année 66, grosso modo, à une science pilote et à deux sciences phares. Cette science pilote et ces deux sciences phares ont un objectif, ont un tir à vue sur quelque chose qui est le sujet, l'attestation de la présence et du sujet. Elles partent du postulat que les logiques à chercher pour les sciences humaines, les logiques, ce qui vaut la légitimation de ces disciplines, c'est d'aller chercher des logiques à l'insu des acteurs. Cela travaille à l'insu des acteurs. Eh bien, ces disciplines, c'est quoi ? C'est la linguistique structurale, pas n'importe quelle linguistique, la linguistique structurale, et avec un modèle qui est le modèle du cours de linguistique générale de Saussure. Cours de Saussure qui est basé sur la rupture radicale avec le sujet, c'est-à-dire la rupture entre ce qui est le domaine de la linguistique, qui est la langue, et qui met à l'écart la parole. La parole n'est pas du domaine de la science linguistique, est rejetée. Elle reviendra, cette parole, mais là, effectivement, nous ne sommes plus en 66, nous sommes en 68, et effectivement, je fais allusion à un livre tout à fait remarquable de Michel de Certeau qui s'appelle « La prise de parole ». Rupture avec le sujet, rupture avec la diachronie au profit de logiques synchroniques, rupture avec le référent, le réel en termes historiens, au nom de l'arbitraire du signe. Donc on a là quelque chose qui, avec Saussure, coupe radicalement avec le sujet et se donne comme un discours particulièrement scientifique, capable de faire science. Il y a là l'idée d'une légitimité scientifique de ces disciplines des sciences humaines. Alors, cette effervescence, je n'ai pas le temps, évidemment, de voir d'où elle vient, etc., ici, mais elle vient, évidemment, d'ailleurs, de Moscou, de Genève, de Troubetsko, de Jacobson, etc. Mais il y a un retard à l'allumage en France. Et Grémas, qui a été le mentor, vous le savez, de Roland Barthes, Algirdas Julien Grémas écrit en 1956 un article qui s'appelle « L'actualité du saussurisme » où il s'étonne que Saussure soit utilisé partout chez les anthropologues, chez les psychanalystes, dans l'ensemble des sciences humaines en général, mais pas par les linguistes. Et à part dans quelques points comme le Collège de France, etc., très très peu nombreux. Et il appelle à ce que, Grémas, à ce que les linguistes prennent en compte Saussure comme la base même du paradigme nouveau de sémiologie, de linguistique scientifique. Les deux autres contre-sciences, contre le sujet, c'est l'anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss, qui connaît un très grand succès dans ces années 60, et pour cause, parce que Claude Lévi-Strauss a réussi par sa rencontre avec Jacobson pendant la guerre à New York, il a réussi cette chose incroyable dans le domaine des sciences humaines qui est de pointer un invariant qui vaut pour toutes les civilisations et toutes les époques et qui est la prohibition de l'inceste. Et il en a montré cet invariant, la base, qui est la base d'explication sociologique, puisque pour l'expliquer, il utilise Marcel Mauss et la théorie du don contre don, et le fait qu'un groupe ne peut, à part s'il veut mourir, que s'ouvrir sur l'autre. Et qu'on s'ouvre, hein, les groupes sociaux s'ouvrent par les femmes, et par l'échange, par les structures de parenté, et d'où sa thèse sur les systèmes de complexes de parenté et élémentaires de parenté. Et vous avez là quelque chose qui, évidemment, porte l'espérance des sciences humaines. Un Claude Lévi-Strauss qui va, et il va évidemment à partir de la rentrée au Collège de France, a réussi à trouver un invariant dans les sciences humaines, un invariant qui ne correspond ni au jugement moral du sujet, qui fonctionne à l'insu des logiques individuelles, comme logique de groupe. Et deuxième contre-science qui a le sujet pour objet, mais qui va trouver un sujet particulièrement clivé, c'est la psychanalyse, mais psychanalyse, Elisabeth Roudinesco en parlera plus savamment que moi, évidemment, la psychanalyse à l'époque, dans sa version lacanienne, hein, c'est la Lacan qui va être le représentant de cette psychanalyse version française qui, elle aussi, a coupé, car en effet, Lacan a coupé ses liens depuis 1953 avec l'IPA, avec l'Organisation internationale de la psychanalyse, et qui fait valoir un modèle qui s'enracine là aussi sur l'algorithme saussurien. Je pense là à un article sur l'instance de la lettre dans l'inconscient où il utilise abondamment l'algorithme saussurien en 1957 et autour des deux tropes que sont la métaphore et la métonymie qui renvoient à la condensation et au déplacement à la métonymie et le déplacement de la chaîne signifiante dans le discours psychanalytique qui est le sien. Bien, donc cet attelage, hein, va progresser au fil des débuts des années 60 et va donner lieu en 64 à un programme qui est un programme plus large, qui est un programme de sémiologie générale et que va définir dans Communication 4 quelqu'un comme Roland Barthes, qui définit alors donc ce que j'ai déjà dit être l'activité structuraliste et non pas seulement une école. Et puis en 65-66, la philosophie va devenir, avec l'althusserisme, qui a à l'époque une très grande importance, et pas seulement à Ulm, pas seulement à Normalsup, va devenir le lieu même d'un rapport privilégié à cette effervescence des sciences humaines, à ce paradigme structuraliste, y compris dans la lecture qui sera donnée de Marx par Althusser et tous les Althusseriens qui l'entourent, les Macheret, Rancière, Milner, Miller, etc. Et il y aura effectivement en 65 un fameux séminaire sur la lecture du Capital qui va donner lieu à une publication, Lire le Capital. Et en 66 se créent les cahiers pour l'analyse à Ulm, dont le titre en exergue est « Construire la science », avec une majuscule, « la science », « la théorie », « philosophie du concept ». C'est une phrase tirée de Georges Canguilhem, qui est donné là comme la grande référence pour créer un anti-humanisme théorique, un procès sans sujet ni objet. Hein, tel est effectivement le programme des cahiers pour l'analyse. Donc une décentration totale du sujet. Les hommes n'apparaissent dans la théorie que sous la forme de rapports, de relations impliquées dans la structure, et les formes de leur individualité comme des effets déterminés de la structure, écrit Balibar dans « Lire le Capital ». Eh bien, la philosophie devient donc épistémologie, science du concept, et c'est ce qui explique le Foucault de 66, car il y a d'autres Foucault, et celui de l'archéologie du savoir de l'après 68 est un peu différent. Il dira d'ailleurs, mais comme tous, qu'il n'a jamais été au baquet structuraliste, qui n'a jamais été structuraliste. Néanmoins, en 1966, les mots et les choses se revendiquent bien comme tels, comme l'archéologie des sciences humaines, comme l'annonce de la mort de la philosophie et de l'homme classique. Et vous avez là, donc, avec lui, la quête de l'inconscient des sciences humaines. L'humanisme est présenté comme notre Moyen-Âge, je cite Foucault là, notre Moyen-Âge. Et vous avez ici... Donc, le moment structuralisme. Alors, sur le plan éditorial, je vous ai dit que je n'en parlerai pas ici, puisque Pierre Nora viendra la semaine prochaine, donc il en parlera plus savamment que moi en tant qu'éditeur. Il se trouve qu'il démarre la Bibliothèque des sciences humaines en 66. Donc, là, il va en effet connaître des succès extraordinaire, hein, et notamment par l'amitié qu'il tisse avec Michel Foucault et la publication des mots et des choses qui sont vendus 800 exemplaires en 5 jours en juillet. Hein. Vous avez pendant les dernières semaines de juillet 9000 exemplaires vendus. Le chiffre cumulé s'élèvera dans la première édition, à plus de 100 000 exemplaires. Donc c'est un phénomène. L'autre grande figure, c'est François Valle, qui va être aussi la grande figure du structuralisme. C'est l'éditeur de Barthes, c'est l'éditeur de Lacan, c'est l'éditeur de Derrida. Et dans l'entretien que j'ai eu avec lui pour réaliser l'histoire du structuralisme, il m'a dit « Je suis convaincu, à la fois comme intellectuel et comme éditeur, que s'il y a une chose dont il faut se méfier comme de la peste, c'est de la répétition. Ce qui m'a tout à fait satisfait, c'est le fait que là, donc avec le structuralisme, j'avais chaque fois l'impression d'être devant de l'inédit. Donc c'est cet inédit qui est transmis et qui va trouver son lectorat. Alors l'autre caractéristique, c'est que, j'ai dit crise de croissance des sciences humaines, c'est aussi un phénomène français. C'est un phénomène très français parce que, justement, en France, pesait le poids des humanités classiques, le poids du Lagarde et Michard, le poids de la vieille Sorbonne, et que, comme je l'ai dit, les sciences sociales avaient du mal à se faire entendre. D'autre part, la centralité parisienne, là encore, a accentué cette effervescence structuraliste, et puis ce que les Américains ont appelé ensuite le French Theory, c'est-à-dire le succès international, car effectivement, cela a été un excellent produit d'exportation du terreau national. Cette intensité de la vie intellectuelle française aussi vient du fait que l'université, dont j'ai dit qu'elle était un peu fermée sur elle-même, mais la vie intellectuelle passe pas exclusivement, contrairement à un autre paysage que connaît bien Antoine Compagnon, qui est le paysage américain, où il y a effectivement une vie intellectuelle qui est très cloisonnée à l'université. Une autre caractéristique en France, c'est que cette vie intellectuelle est transversale, et surtout à ce moment-là. Elle ne passe pas seulement par l'université, elle passe par des batailles de presse, par des batailles de revues, par des batailles éditoriales. Et la plus connue d'entre elles, mais qui a fait mal, une bataille haute en couleur, c'est la fameuse bataille que connaît évidemment par cœur Antoine Compagnon, qui est la bataille Barthes-Picard. Et elle a lieu dans ces années, 65-66. Elle commence, vous le savez, on se tire les cheveux, les grands classiques français, et pour le coup, un des plus grands classiques français, qui est Racine. Barthes publie son Sur Racine en 63, au Seuil, et il en fait une lecture psychanalytico-anthropologique de l'homme racinien. Là-dessus, réponse du grand spécialiste à la Sorbonne de Racine, Raymond Picard, qui publie en 65 « Nouvelle critique ou nouvelle imposture ». Donc vous comprenez avec le titre qu'il n'est pas tendre avec la lecture barthienne ou barthésienne. Et qu'il appelle ça effectivement une critique à l'estomac qui renonce à la vérité historique. Eh bien, Barthes lui répondra en 66 par un autre ouvrage qui s'appelle « Critique et vérité » avec un bandeau, donc je ne sais pas s'il est responsable, mais en tout cas, c'est l'esprit de l'époque, et puis c'est le Seuil qui met ce bandeau. « Faut-il brûler Barthes ?» Vous voyez que l'affaire est grave, quand même. « Faut-il brûler Barthes ?» Et Barthes, évidemment, s'appuie sur Jacobson, s'appuie sur Lacan, s'appuie sur Lévi-Strauss pour promouvoir une science de la littérature contre le positivisme du XIXe siècle, une science des conditions formelles du contenu. Bon. Autre bataille haute en couleur et qui a fait des dégâts, là je le sais d'encore plus près pour avoir fait la biographie de Paul Ricoeur, c'est la bataille Ricoeur-Lacan qui a commencé par un malentendu, en fait. Qui a commencé par un malentendu, puisque Paul Ricoeur, après avoir écrit en 59 la symbolique du mal et le symbole donne à penser, commence ce qu'il va appeler sa greffe herméneutique sur le programme phénoménologique. Car il est un des grands introducteurs, vous le savez, de Husserl en France. Et donc, il commence sa greffe herméneutique et il se trouve, en tant que philosophe, devant ce défi d'une discipline dont on parle de plus en plus, qui est la psychanalyse, et qui est évidemment un défi par rapport au cogito cartésien, un défi par rapport à la raison et au sujet. Et, comme toujours, Paul Ricoeur prend très au sérieux à ce défi, il ne va pas l'éviter, il va s'y confronter, et il va intervenir à Bonneval, chez les psychanalystes, dans un congrès sur l'inconscient. Il y fait une intervention sur l'inconscient, et qui séduit beaucoup les psychanalystes, et qui séduit y compris Lacan, qui se dit « voilà un philosophe qui nous prend au sérieux ». Et Lacan, qui cherche des cautions, parce qu'il a rompu avec toute la société de psychanalyse internationale, qui cherche des cautions sur le plan philosophique, se dit « voilà un philosophe connu, réputé, savant, qui va pouvoir me cautionner et qui est en train de faire sa traversée du corpus freudien, qui va pouvoir me cautionner ». Et donc il l'invite à son séminaire. Et voilà Ricoeur, qui est d'un tout autre style que Lacan, assistant au premier rang au séminaire de Lacan et préparant un ouvrage sur Freud. Il va consacrer en effet 5 ans de sa vie, de 60 à 65. Cet ouvrage va paraître au Seuil en 65, dans l'ordre philosophique, à son essai sur Freud qui s'appelle « De l'interprétation ». Et malentendu, parce que d'abord Lacan ne voyait plus Ricoeur à son séminaire à un moment et l'appelle en lui disant « Ricoeur, pourquoi ne viens-tu plus à mon séminaire ?» Et Ricoeur, avec son honnêteté habituelle, lui dit « Mais écoutez, je ne comprends rien. » Bon, l'autre a raccroché. Et quand Lacan a découvert de l'interprétation, il a fulminé, il a pris donc l'ouvrage à son séminaire, l'a brandi, en disant à son public, il y avait un public encore plus imposant que vous n'êtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de cette bondieuserie ? Et de mettre au tableau la dédicace personnelle que lui envoyait Ricoeur, qui était tout modestement, ici, à la fin de mon travail sur Ricoeur, commence votre propre œuvre. Car, effectivement, c'était un essai sur Freud, ce n'était pas un essai sur Lacan. Et donc, ce sur quoi travaillait Ricoeur, c'était tout le corpus freudien. Il y avait à peine, effectivement, deux, trois notations infrapaginales à Lacan. Alors que Lacan s'attendait à ce qu'on lui dresse, effectivement, un piédestal. Donc, il a fulminé et il a donné toute sa garde, et on n'était pas tendre en cette période, surtout Lacan, et il a fait donner sa garde dans les deux revues les plus prestigieuses à l'époque, en 66, qui étaient 65-66, qui restent encore prestigieuses, qui étaient Critique et Les Temps modernes, Valabrega dans Critique, Michel Thor dans Les Temps modernes, attaque frontalement Ricoeur, attaqué sur le mode « il n'a rien compris », c'est même pas un livre, c'est un manuel scolaire pour enfants attardés. Sans doute des nouvelles universités dont nous a parlé Antoine Compagnon. Et d'autre part, il a, ce qui est contradictoire, il a plagié Lacan, puisqu'on l'a vu au séminaire, il prenait des notes. Donc, effectivement, sa connaissance de Freud vient en fait de Lacan, auquel il n'a rien compris. Vous comprendrez que Ricoeur, qui, comme à son habitude, est un fervent de la dialogie, et cherchait à dialoguer avec les psychanalystes, a été quelque peu déçu du voyage. Déçu du voyage au point que, d'ailleurs, personnellement, il l'a subi au point de subir une véritable dépression nerveuse temporaire, heureusement. Mais sur le plan de la scène intellectuelle, il va, dans un premier temps, être totalement ringardisé. Il ne s'agira plus de parler de Ricoeur. Tout le monde va se gausser et il sera même instrumentalisé en 69 pour comme faire valoir pour l'élection ici au Collège de France, pour faire élire Foucault, il fallait une espèce de faire valoir et on a pris Ricoeur, sans évidemment lui dire qu'il était là pour la galerie. Donc c'est vous dire un peu les choses. Et alors Lacan, autre effet de cette polémique qu'il va lancer, c'est que Lacan va se laisser convaincre par son éditeur François Valle. Valle va lui dire « Mais si ta conception de Freud, ce n'est pas celle que donne Ricoeur, il faut que tu publies sur la psychanalyse. » Et c'est donc de l'interprétation en 65 qui explique la publication en 66, parce que Lacan est un homme de parole, des écrits, des fameux écrits de Lacan. Alors, j'accélère vu le temps, mais une autre caractéristique du structuralisme dans cette année 66, c'est que le paradigme structuraliste, et je l'évoquais déjà un peu lorsque je disais que c'était une pensée critique, c'est une philosophie du soupçon. Une philosophie du soupçon, c'est une philosophie d'une machine de dévoilement. De dévoilement pour trouver la vérité qui est à l'insu, la vérité qui est cachée, l'aletheia. Et l'objectif du structuralisme, c'est donc de démythologiser, de démystifier, de dénaturaliser, d'aller à l'encontre de la doxa, d'aller à l'encontre du sens commun. Bon, considérant que le sens commun ne vaut pas, le structuraliste est forcément dans une posture de surplomb. Et à partir de son schéma, il va pouvoir dire ce qui, sur le plan de la logique de classe, sur le plan de la logique libidinale, se gîte derrière les discours, qui ne peuvent être que des discours de mauvaise foi, qu'il s'agit de dénoncer, de déceler au regard de la triade de cette philosophie du soupçon à l'époque, qui était Freud, Marx et Nietzsche. Donc, à partir de cette triade, on a effectivement une bonne machine de dévoilement du soupçon qui coupe avec le discours dominant, qui coupe avec l'opinion, la doxa. Il ne faut surtout pas se prendre les pieds dans le tapis de la doxa. Vous trouvez ça chez Barthes, vous trouvez ça chez tous les structuralistes. C'est un topos tout à fait fondamental de cette année 66. Et c'est aussi le moment où l'Occident s'interroge sur l'autre scène. L'Occident s'interroge sur son envers, sur l'invisible. D'abord parce que on va effectivement rejeter la civilisation qui est la nôtre, la civilisation qui a été dominante. On est dans un moment de critique de la téléologie occidentalo-centrée, européo-centrée, qui est l'objet de critique. On va valoriser à l'époque l'image du fou contre l'homme de raison. Effectivement, cette image évoquée à propos du Bapu par Guattari, oui, mais en même temps, derrière ce fou, derrière cette misère de Guy Debord, etc., il y a une espèce de valorisation de l'image du déjanté, de l'image du fou qui dit le vrai, hein, du langage du schizophrène qui dit le vrai par rapport à celui qui ne dit rien d'autre que ce qu'il entend sans le comprendre. Valorisation de l'enfant par rapport à l'adulte. C'est le moment où, un peu plus tard, hein, les travaux des historiens, d'Ariès, etc., et la proximité d'ailleurs plus tard d'Ariès avec Foucault, du sauvage par rapport au civilisé, des civilisations qui ne sont pas contaminées par l'Occident. Vous avez là quelque chose qui est une critique radicale de la philosophie des Lumières. On va traquer derrière les Lumières le non-dit des Lumières, le monde du renfermement, la logique infernale du savoir-pouvoir, du biopouvoir, de la discipline des corps et des esprits. Vous avez là un rejet civilisationnel qu'on retrouve. Barthes dit « Je refuse profondément ma civilisation jusqu'à la nausée ». Claude Lévi-Strauss termine sa tétralogie des mythologiques par « rien en majuscule ». Qui est une forme de requiem, de crépuscule de l'humanité. Eh bien, vous avez là quelque chose qui est en effet de l'hypercritique. Pourquoi cette hypercritique ? Pour des raisons, on peut dire, sociologiques, on peut y trouver des raisons sociologiques, c'est un éclairage. J'y trouverai plutôt, peut-être parce que j'ai le tort d'être historien, mais des raisons proprement historiques. Et je pense que nous sommes là à un moment où cette génération prend au sérieux ce que l'école de Francfort et Adorno a dit après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il fallait non pas arrêter de penser après Auschwitz, mais certainement penser différemment après Auschwitz, que l'on ne pouvait plus être naïf, que l'on ne pouvait plus considérer que l'histoire était un continu, une téléologie de progrès après, qu'en cœur même de la civilisation et de la culture, elle ait engendré la barbarie à l'état pur. Un certain optimisme historique du XIXe siècle, le siècle de l'histoire, n'est plus de saison en ce milieu du XXe siècle. La crise ici de l'idée de progrès est très forte. Elle était déjà exprimée après la Grande Guerre de 14-18 par quelqu'un comme Spengler, le déclin de l'Occident. Eh bien, ce déclin, il est encore plus radical après la Deuxième Guerre mondiale, après le choc de la Shoah et d'Auschwitz. Mise en cause donc de l'histoire occidentale, soumise aux doutes critiques, l'enfer en 1945, c'était les autres, disait Sartre, eh bien, l'enfer en 1966, c'est soi-même. Hein. Et effectivement, nous passons, c'est une simple métaphore de ma part, des mandarins de Simone de Beauvoir aux samouraïs de Kristeva. Ce qui est un peu plus radical. Et la société, en effet, a été réduite et a réduit l'individu à un numéro matricule, nous dit Alain Robbe-Grillet. Eh bien, vous avez là quelque chose qui est comme le deuil de l'avant-garde littéraire qui est apporté. Deuil de l'avant-garde littéraire, deuil de l'avant-garde occidentale, deuil de la téléologie historique, crise du régime d'historicité, dirait mon ami François Hartog. Et puis tout ça accompagne aussi les effets de la décolonisation, car l'Occident voit sa greffe rejetée par les progrès de la décolonisation, qui en 66 est terminée, mais on n'est pas si loin, parce que ce processus de décolonisation qui a éclaté à Bandung en 55, Bandung 55, mais en même temps 55, c'était l'année de publication, ça n'a aucun rapport, mais dans l'esprit du temps, ça a tous les rapports, c'était l'année de publication de Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. C'est le moment où ce fameux lectorat, et dès les années 50, commence à se dire que, eh bien, on a beaucoup à apprendre pas seulement du même, mais de l'autre, de l'altérité, des Nambikwara, des Bororo, des Kaduveo, que nous fait revivre Claude Lévi-Strauss. Eh bien, vous avez là effectivement 62, indépendance de l'Algérie, fin du processus de décolonisation très difficile de l'Algérie, qui va d'ailleurs être la base de départ du livre « Les Français d'Algérie » de Nora et de son amitié avec Foucault. Je ne développe pas là-dessus, mais vous avez ici un phénomène générationnel, me semble-t-il, tout à fait capital, qui va s'accentuer encore, parce que à cela, à l'après-guerre, vient d'autres événements qui vont marquer la génération de 66. C'est 56. C'est ce qui se passe comme désillusion en 56. Sur le plan historique, vous avez là un effondrement d'un certain nombre d'illusions. C'est, vous le savez, le rapport après la mort de Staline en 53, le rapport Khrouchtchev, la révélation que le stalinisme n'a pas été véritablement le paradis terrestre que l'on présentait, loin s'en faut, et que, évidemment, l'espérance des lendemains qui chantent va en prendre un coup en 56. Et pour toute cette génération. Et Foucault dira lui-même, nous devons repartir à zéro. Vous avez ici, y compris pour certains qui essaieront de préserver le marxisme, un marxisme préservé par certains, mais un marxisme sous vide, qui, sur le plan culinaire, peut être effectivement comestible, mais détaché de son destin funeste, complètement sous vide. Et l'eschatologie révolutionnaire en prend un coup ici majeur et qui va se réfugier vers la science, vers le fait de faire son deuil de lendemain qui chante et de réinterroger les logiques à l'insu, l'altérité, les autres, la science qui va être une ligne de fuite par rapport à un certain ancrage historique. Et je terminerai en disant que 66, c'est aussi le dépassement, les prolégomènes du dépassement du structuralisme ou de ligne de fuite du structuralisme vers ce que François Valle a appelé l'ultra-structuralisme, qui est les premières critiques par rapport au structuralisme déconstructiviste de Jacques Derrida, qui commence en effet en 66. Ça commence par l'invitation par André Green, psychanalyste connu, à son séminaire de Derrida en mars 66, et Derrida intervient sur Freud et la scène de l'écriture. Freud et la scène de l'écriture, et il fait de Freud, Derrida, un compagnon de la déconstruction qu'il prône sur le plan philosophique par rapport au ce qu'il appelle le logocentrisme, et il insiste sur l'importance des concepts d'après-coup, on est là très en psychanalyse, et d'arretardement. Et c'est, et là, en 66, qu'il énonce donc quelque chose qui va être public, mais qui va mettre en crise le structuralisme avant même 68, dès 67, c'est son livre « L'écriture et la différence ». Et Derrida va là, en effet, lui aussi, achoper sur son dialogue avec Lacan, puisqu'il va retrouver Lacan à John Hopkins aux États-Unis en 66, entre le 18 et le 21 octobre 66 exactement. C'est la première fois que se rencontrent physiquement Derrida et Lacan. Et Lacan lui dit à Derrida, vous ne supportez pas que j'ai déjà dit ce que vous avez envie de dire. Alors, Derrida est suffoqué et lui répond, ce n'est pas cela mon problème. Le dialogue va en rester là. Et Derrida va intervenir à ce colloque sur, je cite, « la structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines ». Et il va énoncer là son programme de déconstruction, mais qui est y compris le programme de déconstruction de la structure du structuralisme. Et cela va véritablement être vécu d'ailleurs par les Américains comme une rupture. Je pense là d'ailleurs à ce qu'en dit David Carroll à Benoît Peters, qui est, comme vous le savez, l'auteur de la biographie qui vient de paraître de Jacques Derrida. Carroll écrit à propos de cette conférence à Baltimore de Derrida, nous étions en train de découvrir ce qu'était le structuralisme et voilà qu'il mettait en question ce que nous commencions à apprendre. J'ai senti tout de suite que c'était un événement. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains différencient entre le modernisme et le postmodernisme. Le postmodernisme, c'est à partir de Derrida que se joue là une rupture par rapport à la modernité, qui est encore la modernité du structuralisme pour les Américains. Et dans cette intervention, en effet, Derrida s'inscrit à l'intérieur, certes, de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, mais pour en réaliser la déconstruction, critiquant le caractère figé de l'analyse structurale, et il passe, vous le savez, de son fameux concept, du concept de la différence au concept de la différence. Vous avez tout de suite, vous n'avez pas pu saisir, évidemment, mais vous la connaissez, la différence. Elle est purement visuelle, la différence, non pas avec un E, mais la différence avec un A. Eh bien, en 67, vous avez là, effectivement, les premières fissures dans le programme structuraliste, lesquelles vont littéralement éclater sous les coups du coup d'État, coup d'éclat de mai 68, mais lequel mai 68 va assurer en même temps que la disparition du paradigme structuraliste, le triomphe institutionnel de l'étendard structuraliste, avec la création de l'université structuraliste, qu'est l'université centre expérimental de Vincennes, dont vous, c'est pas la peine d'aller regarder dans le bois s'il en reste la moindre trace, car elle a été éradiquée au point que les arbres ont repris leurs droits et que vous n'aurez plus aucune mention, même pas une pierre tombale, pour signifier que s'y gît l'université Paris 8 Vincennes. Merci.
Merci pour ce vaste parcours à travers de nombreux auteurs et ce mouvement pesant qu'est le structuralisme, ça nous évitera de trop revenir à cet aspect de 1965-1966. Et je suis heureux que vous ayez terminé sur la fin du structuralisme, parce que je crois qu'en effet, l'année 65... 66, c'est celle de la sortie du structuralisme. Vous avez rappelé l'intervention de Derrida au printemps de 66 sur la psychanalyse. Mais j'aime à rappeler que le texte fondateur de Derrida, c'est de la grammatologie, publié dans Critique en deux livraisons, décembre 1965, janvier 1966, c'est donc à l'articulation en plein dans notre année qu'on passe avec cette critique de Lévi-Strauss. Hein. C'est une critique de Lévi-Strauss à quelque chose d'autre que le structuralisme qui est quand même avant tout identifié à Lévi-Strauss. Il y a un structuraliste, c'est lui, il n'y en a pas vraiment d'autres. Alors, bon, on peut évoquer un certain nombre de points. On a un peu déjà eu cette discussion, on peut la reprendre, la rejouer. Vous savez les quelques points sur lesquels je suis... j'ai des positions légèrement différentes. En particulier, je ne crois pas que Saussure ait été ignoré ni pendant l'entre-deux-guerres en France... ni pendant les années 50. Je crois que les linguistes français étaient des élèves de Saussure, mais que ça ne sortait pas de la linguistique. C'est ça la différence. On en avait parlé. Les linguistes français, c'était Meillet. Enfin, il y a une généalogie de la linguistique française qui est saussurienne. C'est Bréal, Saussure, Meillet, Benveniste, et chacun est le disciple du précédent. J'ai été vérifié il n'y a pas longtemps. Je vous citais tout à l'heure. Je vous citais tout à l'heure dans mon cours le manuel de philologie de Meillet et Vandriès, qui est le manuel de base du certificat de philologie par lequel sont passés tous les étudiants jusqu'en 1966. Il y en a plusieurs éditions et j'ai observé que dans la préface de Vandriès, à ce manuel de l'édition courante des années 50, la seule personne à qui Vandriès renvoie, Meillet est mort, donc le livre est mis à jour par Vandriès, mais la seule personne à qui il renvoie, c'est Saussure. Il n'y en a pas d'autre. Et quand on regarde la série des ouvrages de Meillet, ces recueils des années 20, les références à Saussure, à la distinction langue-parole de Saussure, sont totalement intégrées. Autrement dit, il y a un peu cette idée d'un retard français dans la méconnaissance de Saussure, sur laquelle on fonde l'histoire officielle du structuralisme. Je pense qu'il n'y a pas de retard français dans la linguistique. Les linguistes français avaient été des élèves de Saussure, que ce soit à l'école pratique des hautes études ou ici. La différence, c'est que Saussure est devenu une lecture, non pas des linguistes, mais de ce que j'appelais tout à l'heure les nouveaux propédeutes. Après la fin de la propédeutique, Saussure devient une sorte de méthode critique dans l'ensemble des sciences humaines et sociales. On le lit partout, mais je ne crois pas que ça fasse de différence de fond du point de vue de la linguistique. Et dans la préparation de ce cours, j'ai lu le livre de Jean-Claude Milner qui s'appelle Le périple structural, dont je vous recommande la lecture. C'est un livre très bien. Je regrette de ne pas avoir lu assez tôt, parce que si j'avais encore quelques personnes à inviter dans le séminaire, évidemment, il faudrait inviter Jean-Claude Milner. Et dans ce livre, il y a des chapitres sur Saussure, sur Benveniste, et il suit cette histoire et montre très bien, beaucoup mieux que je viens de le faire en le résumant en quelques instants, cette non-méconnaissance de Saussure, mais en distinguant évidemment de la sortie. Et c'est un petit peu ce que je suggérais dans mon cours tout à l'heure, l'idée qu'il y avait besoin d'une méthode critique pour fonder autrement. C'est le proséminaire, c'est ce type de référence, c'est à ça qu'a servi Saussure, à mon sens, dans ce basculement des années 66. Mais on peut ajouter, c'est un Saussure pour la pédagogie universitaire, au moment où, en effet, de l'autre côté, on sort du structuralisme dans la recherche. Il y a évidemment toujours un retard. Saussure devient l'abécédaire des sciences humaines et sociales au moment où un certain nombre des chercheurs en sont sortis. L'autre point où je ne dirais pas les choses exactement comme vous, c'est à propos de votre analyse vers la fin de cette crise du futur. Au sens où moi je vois ce moment de 1966 comme un moment de conscience en France qu'on est sorti de la guerre, conscience de la prospérité française. C'est un moment de prospérité, 65-66. Vous l'avez rappelé, la France n'est pas sortie de la guerre depuis si longtemps, depuis 62, et la France est un pays de pauvreté, de pénurie, jusqu'à ce moment-là, et c'est pour moi un peu au centre de gravité de ce qu'on a appelé ensuite les 30 Glorieuses, le moment de la prise de conscience de la prospérité. Je citais la semaine passée les indicateurs de la télévision. L'année dont nous parlons, c'est celle où la moitié des ménages en France ont la télévision. Hein. En quelques années, ça s'est fait, depuis 1962. Que la télévision a envahi les foyers français. C'est parce que la télévision a envahi les foyers français que l'élection présidentielle de décembre 65 s'est jouée largement à la télévision. Enfin, il y a des choses comme ça. C'est un moment de prospérité. Je crois même que ce que j'évoquais tout à l'heure, comme le prolongement des études. Pourquoi prolonge-t-on ces études en 65-66 alors qu'on est encore dans une société où on n'a pas besoin de diplôme? Aujourd'hui, on a besoin de diplôme pour trouver du travail, mais en 65, on n'a pas besoin de diplôme pour trouver du travail. C'est une société de plein emploi. On est en plein dans le plein emploi. Il n'y a qu'un chômage structurel, comme on dit. Il y a un plein emploi. Et alors, c'est les étudiants, comme je le décrivais, prolongent leurs études à partir de 1962, avant le choc démographique. Or, s'ils allaient sur le marché du travail sans diplôme, ils trouveraient du travail. Hein. La plupart des techniciens et des ingénieurs français, à cette date, n'ont pas de diplôme. Ils ont une formation sur le tas. Et le prolongement des études, et même si, à ce que je décrivais tout à l'heure, hein, comme ces malades de l'université, comprend quand même l'idée que c'est un investissement, que les études sont un investissement, et tout ça, pour moi, c'est plutôt le signe d'un optimisme historique. Alors vous avez, en revanche, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que vous faisiez des conséquences de 1956, hein, de cette déception ou désillusion historique là. Et on pourrait ajouter que 65-66, c'est en Union soviétique, c'est la fin de l'épisode Khrouchtchev et l'arrivée de Brejnev et d'un autre moment. Or, il y a eu, c'est la fin de l'aggiornamento du Parti communiste français également. Enfin, il y aurait, donc là, oui, je crois que ça c'est. Je suis beaucoup plus d'accord avec vous sur ça.
Oui,
voilà, il va falloir limiter parce que je vois que le temps passe.
Oui, allez. Simplement pour rappeler que, mais vous le savez évidemment mieux que moi, c'est que si effectivement il y avait la filiation Meillet-Benveniste, etc., c'est vrai que Benveniste était en même temps dans un isolement total. Je vous disais, avec une demi-douzaine de personnes autour de lui au Collège de France. Je rappelle une anecdote qui est très révélatrice de l'isolement de Benveniste en 66, que sort, vous lui poserez la question d'ailleurs, Pierre Nora, de l'ombre et de la marginalité, puisqu'il publie son fameux ouvrage dès 66, Les problèmes de linguistique générale. Il se trouve que Problème de linguistique générale, livre assez difficile pour qui n'est pas linguiste, sort en 66. En 3 semaines, il faut réimprimer. Extraordinaire, extraordinaire. Et Pierre Nora, son éditeur, prend le téléphone, appelle Benveniste et lui dit « Écoutez, Émile Benveniste, c'est extraordinaire, c'est un tel succès qu'on réimprime. Bon. » Et réponse de Benveniste à Nora, son éditeur, malgré tout le respect et l'amitié qu'il pouvait avoir pour lui, « Monsieur, vous mentez. » Il n'en revenait pas, le Benveniste. Et il reprend ses esprits, il dit « Monsieur, je m'assieds, je prends mon cœur. Bon. » C'est dire un peu, cette anecdote est révélatrice de l'isolement quand même d'une certaine linguistique. Et donc, oui, présence, mais présence par les marges, présence par des institutions qui ne sont pas centrales, et il n'y a de centrale, hein, vous le savez bien, comme dans la reproduction des humanités classiques, que la vieille Sorbonne. Sur ce que vous dites, là où je ne suis pas désaccord, mais quelques réticences à... Parce que, bon, derrière, effectivement, 66, après, il y a 68. Je suis réticent, non pas par rapport à ce que vous avez dit, je cautionne tout à fait tout ce que vous avez dit là tout à l'heure sur le basculement universitaire, la remise en cause de la propédeutique et l'intérêt que pouvait avoir la propédeutique pour les étudiants, la réforme Fouché et la manière dont vous l'avez présenté, et puis ce processus de massification. Ce par rapport à quoi je résiste, c'est des lectures, c'est pas la vôtre, quelque peu bourdivines, qui consistent à expliquer, à réduire ce qui se passe entre 66 et 68 à une guerre de position de la catégorie dominée, de la fraction dominante, de la classe dominante, qui effectivement va donner, dans un schéma qui ne peut plus être celui de la reproduction, ce qu'on va voir à l'œuvre dans l'événement 68. Et c'est là où je résiste, parce que pour moi un événement, et mai 68 est un événement parmi d'autres, mais est un événement... se caractérise justement par la surrection du nouveau, par quelque chose qui, certes, il y a un terreau, et 66 aide à expliquer un certain nombre de choses de ce qui va se passer en 68, mais on ne sature pas un événement par ses causes. Comme le dit Michel de Certeau, l'événement est ce qui devient. Donc, tout rabattement sur une lecture trop sociologisante, et là je pense à Bourdieu, de ce qui est en train de se passer, réduisant les querelles de contenu à des querelles de place, évidant le contenu, qui est d'une logique d'ailleurs très structuraliste, pour percevoir ce qu'est l'homo academicus en train de se jouer et d'expliquer 68, là-dessus, je suis assis. Il y a effectivement des dysfonctionnements, il y a des goulets d'étranglement, c'est certain, et vous en avez parlé, mais il y a des choses à la fois aussi plus essentielles dont je n'ai pas parlé, parce que mon objet était le structuralisme, mais j'aurais pu et dû parler, si j'avais à parler de 68, de 66, dans, plus largement, ce n'était pas mon objet, et c'est votre objet pour toute cette année, à une certaine radicalisation de la jeunesse scolarisée, qui n'est pas seulement ces propédeutes perdus, mais une radicalisation de la jeunesse scolarisée, qui est une conscientisation politique très, très précoce, qui se fait sur fond de guerre du Vietnam, qui se fait sur fond de contestation de ce qui est en train de se passer sur le plan international, sur le plan de la volonté d'un autre monde, d'une radicalité dans la coupure, dans la rupture, qui est fait de cet engouement, de cette malheureuse librairie où certains ont cru bon d'aller y piocher sans payer leur quote-part, qui était la joie de lire au Quartier Latin, qui était un haut lieu à la fois de sociabilité, de diffusion d'un certain nombre d'écrits là aussi qui sont de l'effervescence de ces années 66, 67, 68, avec un éditeur qui est Maspero, qui est le tiers-mondisme de l'époque, qui est effectivement le refus des bombes d'une napalm sur le peuple vietnamien. C'est tout ça aussi qui se joue dans ces années 60 et qui se joue dans une radicalité, dans une volonté de coupure, dans une critique idéologique et dans la recherche d'autres voies que celles qui ont été empruntées par la génération précédente.
C'est venu très vite. C'est venu un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de radicalisation. Vietnam...
Si, 65, c'est la rupture de l'UEC. 65, vous avez une rupture qui est le cœur, effectivement, et qui va être le cœur pas seulement à la Sorbonne, puisque, vous le savez, Guattari va beaucoup recruter dans le département de philo pour avoir des stagiaires à la Borde, dans la clinique, et où va se jouer ce qu'on appelle le psychépôle, la coalescence de la critique psychanalytique et la critique politique, contre l'idée dominante. Ce qui se joue là se joue en 65. 65, c'est effectivement la rupture et la naissance de la JCR, la jeunesse communiste révolutionnaire dans le camp trotskiste.
C'est 66, c'est plus tard. C'est un tout
petit
peu plus tard.
La rupture, c'est 65. Après, c'est la création en 66. C'est l'UJCML qui aussi, les maoïstes qui quittent. C'est Guattari et sa bande qui se fait virer aussi. Vous avez là toute une radicalisation qui se joue en 65-66. Et nous sommes bien là dans un moment, je veux dire, on est à l'écart là, du structuralisme, mais pas autant que ça, parce que le structuralisme a été, dans cette philosophie du soupçon, dans cette philosophie de l'hypercritique, le structuralisme a été aussi une arme. Hein. Elisabeth Roudinesco l'attestera hein, quand elle témoignera en tant qu'étudiante à cette époque. Hein. Moi, j'étais quand même un peu jeune, mais en 66, mais elle, effectivement, était déjà étudiante et dans cette forme de contestation.
Bon, je pense qu'on pourra continuer cette discussion, mais je crois qu'il faut qu'on arrête.